Troisième entretien avec Roger Grenier, écrivain.
Roger Grenier, vous écrivez « Le théâtre de Tchekhov est un théâtre sans construction visible », c'est-à-dire, au fond, sans action. Alors, selon vous, d'où viendrait cette énergie, narrative, du moins qui captive à la fois le lecteur ou le spectateur ?
Ah ben, parce que ce n'est qu'une apparence, qu'il n'y ait pas de construction, pas d'histoire. En fait, en dessous, il y a une construction très très rigide, au contraire, c'est très très solide. Mais Tchekhov s'attache à montrer des gens, non pas selon les vieilles théories d'Aristote, on disait, l'un peint les gens tels qu'ils sont, l'autre tel qu'ils devraient être, et lui, c'est plutôt tel qu'il rêve. C'est les personnages tels qu'ils rêvent, de sorte qu'ils ont des silences. Le silence tient un grand rôle dans le théâtre de Tchekhov. Et tout à coup, il y a même un personnage tout à coup, dans je ne sais plus en quelle pièce, qui demande aux autres de se taire. Enfin, c'est quand même le comble pour un théâtre. Et Tchekhov conseillait aussi à sa femme, l'actrice Olga Knipper, de penser à autre chose pendant qu'elle lisait son texte. Bon, c'est ça qui fait que on a l'impression d'être devant la vie.
Au fond, d'égarer la présence au monde.
Oui.
De la détourner, de lui donner une distance.
Oui, je pourrais ajouter que Tolstoï disait à Tchekhov, il détestait le théâtre de Tchekhov. Hein. Alors il disait, mais oui, où vont vos personnages? Alors Tchekhov lui avait répondu une fois, du divan sur lequel ils sont couchés jusqu'au débarras et retour.
Vous pensez que cette façon d'étirer le temps inscrit l'ironie, l'humour à froid de Tchekhov?
Bien sûr, ça fait partie de ses armes, justement, pour montrer l'ironie, l'humour, mais aussi le désespoir, la solitude. C'est peut-être, je sais pas si c'est la première fois, que au théâtre on attache une telle importance au temps qui passe, alors que c'était une des conquêtes du roman moderne. Le temps est devenu le personnage principal du roman, et avec Tchekhov, le temps devient le personnage principal du théâtre, ou presque.
Au fond, c'est pas l'instant qui compte,
c'est le temps qui passe.
C'est un temps qui s'élargit, qui s'étire. Oui.
Alors parce que peut-être on est en province, en Russie, avec des oisifs qui sont pas bien dans leur peau et qui écoutent passer le temps, quoi.
Je vous donne quelques minutes, Roger Grenier, pour raconter la vie de Tchekhov.
Elle est brève. Hein.
Quels seraient les mots pour vous, pour essayer de la cerner?
La vie de Tchekhov est très brève.
Elle est pleine.
Très pleine en même temps. Il naît en 1860 à Taganrog, c'est-à-dire en Ukraine, au bord de la mer d'Azov. Ce qui fait qu'il dira toujours qu'il est un méridional, que donc il est paresseux, etc. Bon, c'est un paresseux très, très, très actif. Son père tient une épicerie, bistrot, enfin, un commerce, d'ailleurs, qui va péricliter, qui va obliger la famille à fuir à Moscou pour éviter la prison. Et le père est en même temps une sorte de fou de Dieu. Il adore l'église, il adore la religion, il adore les chants liturgiques. Et il oblige ses enfants à... Il est fils de serf, hein, d'ailleurs. Il oblige ses enfants à aller chanter dans les chœurs à l'église. Et les garçons de Tchekhov, là, sont Tchekhov et ses trois frères, ou bien ils gardent le magasin, ou bien ils vont à l'école, ou bien ils chantent à l'église, ils n'en peuvent plus, ils manquent de sommeil, enfin c'est assez... Et puis ils sont battus tout le temps. Une des constantes qui revient dans les propos de Tchekhov quand il rencontre des gens, ou quand il va quelque part, est-ce qu'on vous a battu dans votre enfance, qu'est-ce qui bat les enfants ici, enfin bon. Alors, bon, une fois que la famille est installée à Moscou, il fait quand même des bonnes études malgré tout ça. Et alors là, il fait sa médecine. Et puis, comme il faut faire vivre la famille, le père là, il a démissionné complètement. Il devient plus gentil d'ailleurs en démissionnant. il se met à écrire, comme ses frères, dans des tas de petits journaux. Alors il écrit des blagues, il écrit des petits contes, des petits faits divers. Enfin, et il commence comme ça. Il commence comme ça, tout en exerçant la médecine. Et toute sa vie, il va dire que la médecine est sa femme légitime, et puis la littérature sa maîtresse. Il pourrait ajouter qu'il y a encore une danseuse en plus qui est le théâtre. Et comme tous les écrivains médecins, finalement, ça va pas être un très bon médecin, à mon avis. Il se tient pas au courant, il néglige de plus en plus la médecine au profit de la littérature.
Ça m'étonne beaucoup de votre part, Roger Grenier. Je pensais quand même qu'on aurait pu remettre les pendules à l'heure. Parce que quand même, il s'occupe de la peste, il s'occupe des épidémies, il va à Sakhaline.
Mais c'est pas pareil, attendez.
C'est toujours la médecine. Aujourd'hui, il aurait inventé Médecins sans frontières.
Oui, mais c'est ça.
Il y a une urgence qui te vit.
C'est un hygiéniste, c'est un homme qui se bat quand il y a des épidémies.
L'hygiène, pas à domicile, c'est une hygiène internationale, dans l'urgence.
C'est pas quelqu'un qui se tient au courant des découvertes de la médecine, c'est ça que je veux dire. Non, mais Tchekhov, justement, il est comme Tolstoï, d'ailleurs, quand il y a des grandes épidémies, il prend les choses en main, il fait des choses admirables, et puis il y a ce voyage à Sakhaline qui est incompréhensible, finalement, pour un homme en si mauvaise santé, ce voyage épouvantable dans la boue, dans le désert, pour arriver dans ce bagne situé dans une île proche du Japon. Comme il dit, il y a tout autour la mer et à l'intérieur l'enfer. Enfin, et où il se met à faire un recensement complet de la population, il remplit des milliers de fiches.
Enfin, 10 000.
Oui.
Mais pourquoi dites-vous incompréhensible?
Non, mais je veux dire que... Je vois pas qui d'autre aurait eu le courage de se lancer dans une aventure
pareille.
Vous avez
un seul homme, Tchekhov.
Tchekhov. En plus, il n'avait aucune mission officielle. Hein. Il aurait très bien pu arriver à Sakhaline et puis que le gouverneur lui dise, écoutez, monsieur, qu'est-ce que vous venez faire ici? Repartez. Non. C'est vraiment un prodige, ce voyage à Sakhaline. Alors, il ne l'explique pas lui-même.
Tout le monde était sous le charme de la présence de Tchekhov.
Il charmait les gens, on l'aimait, mais il avait aussi des ennemis, hein. Pas mal d'ennemis. Bon, par exemple, quand il y a eu la catastrophe de la première représentation de la Mouette...
Là, vous allez du côté de la littérature. Les ennemis sont en surnombre. Restons quand même dans l'île de Sakhaline.
Bon, restons à Sakhaline. Bon, qu'est-ce qu'il y rencontre? Il y rencontre, d'abord, l'horreur quand même de la condition... C'est une absurdité du régime tsariste, Sakhaline, parce que ça voulait être à la fois un lieu de châtiment, un bagne, et en même temps un lieu de peuplement. On transformait les forçats tout à coup en paysans, et puis après en paysans plus libres. Tout ça était dans l'absurdité la plus totale. Qui tenait le haut du pavé, c'était les bourreaux, ceux qui fouettaient les gens ou qui les pendaient. La prostitution était généralisée, le concubinage aussi. Et Tchekhov regarde tout ça, mais il s'intéresse... Bon, il fait cette enquête extrêmement complète, mais en même temps, il relève des cas qui sont des sujets d'histoire pour lui, finalement. Il peut pas s'empêcher. Hein. Et c'est toujours l'humanité, quoi, qui...
En fait, ça correspond un peu à son théâtre.
Oui, enfin, le théâtre est moins... un peu plus aseptisé, quand même, que cet enfer de Sakhaline.
Alors, je ne sais pas si j'ai bien lu l'île de Sakhaline, Roger Grenier, mais il me semble que Tchekhov est un peu, lui aussi, sous le charme de l'humanisme infernal du tsar, qui semble avoir pensé des règles, un règlement ou des lois, et que finalement, cette île, elle vit par elle-même, malgré tout.
Je n'irai pas jusque-là, quand même. Bon, parce que il y a des moments là où justement il dit ce qu'il pense, et c'est bon. Il assiste à une scène où on annonce à des forçats que maintenant ils vont être transformés en paysans libres, enfin bon. Et il les voit complètement désemparés, et il se dit que dans le fond, même la souffrance, si au moment où elle s'arrête, eh bien alors on est complètement démuni.
Il y a aussi cette observation de la lumière, du froid réel et du printemps proche. Il y a des espoirs, des lueurs d'espoir.
Ben, ce câline, la température moyenne est de 0 degré quand même. Hein, voilà. Alors, ce que vous dites me fait penser au fait que quand, au retour de Sakhaline, il a peut-être plus souffert à écrire son rapport qu'à être sur place. Hein. Ça, c'était la corvée pour lui, quand même. Et il est allé le montrer à Tolstoï. Et Tolstoï, il y a tout le temps une incompréhension totale entre Tolstoï et lui, alors qu'il s'aime beaucoup, mais n'empêche, Tolstoï lui dit que ça manque de paysage, qu'on voit pas bien le ciel, les paysages, la nature. Bon, il n'était pas allé là-bas pour décrire des paysages.
C'est vrai que c'est un rapport admirable, mais beaucoup trop. Il est trop tôt pour écrire dans ce sens-là. Il y a quelque chose d'un rapport d'assureur tel que les écrivait Kafka, par exemple. Il y a une froideur, il y a une distance.
Oui, bien sûr, c'est ce qu'il voulait, oui.
Mais il y en a quand même une écriture.
Ah ben, il ne peut pas s'empêcher, bien sûr. Mais, et je crois que ça a eu quand même une influence, ça n'a pas été un voyage inutile. Ça a fait supprimer, je crois, en partie les châtiments corporels. Ça a fait adoucir quand même et puis ça a inspiré d'autres artistes. Quand on voit un tableau de Lévitan, qui est simplement une route, un chemin dans la steppe à l'infini, et on comprend que c'est le chemin que suivent les bagnards, les fers aux pieds. Il y a personne, hein, sur ce tableau. Il n'y a pas un être humain sur ce tableau. Il y a que la plaine. Et c'est toute l'horreur du bagne qui est déjà là. Et ça, c'est inspiré par Tchekhov.
On parlera du théâtre tout à l'heure, mais j'aimerais bien que vous me disiez quelle séparation vous faites entre le théâtre et la prose. Que ce soit la prose du récit ou de la nouvelle, qu'est-ce qui l'oblige à écrire en prose? Est-ce que cette prose va nourrir le théâtre, ou bien est-ce que cette prose est un miroir pour l'homme, Tchekhov?
La prose, bon, je le disais tout à l'heure, ça commençait par être un gagne-pain, et puis il s'est fait un petit peu tenser par le vieil écrivain, la Grigorovitch, qui lui a dit « Mais comment vous gâchez votre talent, c'est pas bien, etc. » Tout à coup, il a pris conscience, quand même, qu'il avait une valeur. Supposé qu'il n'en ait pas pris conscience avant, secrètement. Et c'est là où il commence à écrire sérieusement, à écrire la steppe. Et à partir de là, il devient, enfin, le Tchekhov que nous connaissons, que nous aimons, qui s'épanouit dans la nouvelle, qui n'arrive jamais à écrire un roman, d'ailleurs. Et qui est très fier... Parce que d'être reconnu comme un auteur important, il a même le prix Pushkin, sans avoir écrit de roman, c'est un tour de force quand même à cette époque en Russie. En Russie, on n'est pas un écrivain si on n'a pas écrit des romans, enfin quand même au siècle de Tolstoï, Dostoïevski et Turgenev. Donc, il pense qu'il a ouvert une brèche là. Et bon, le théâtre, alors c'est autre chose pour lui, et c'est une expérience assez malheureuse au début quand même, assez malheureuse. Donc il y a que les pièces en un acte qui marchent, qui font rire, même le tsar rit à ces pièces en un acte, qui sont faites plutôt pour être jouées justement dans les familles, en société, enfin que sur des scènes de théâtre. Et il s'obstine, et il y a ce théâtre admirable et qui aujourd'hui occulte un peu les nouvelles parce que les gens, bon, ils entendent parler du théâtre et ils vont pas le voir qu'à côté il y a tellement de nouvelles admirables. On est dans le même cas qu'avec Pirandello. Hein, qu'est-ce qui sait que Pirandello a écrit, je vois, de 280 nouvelles? Bon, Pirandello voulait en écrire 365 et appeler ça nouvelle pour une année. Alors, il n'est pas arrivé jusqu'au bout, mais quand même, il y en a beaucoup. Et c'est très très beau. Ben, personne, on les ignore en général, alors qu'on admire à juste titre son théâtre.
Mais selon vous, il y a quelle volonté, là, à la fois dans le roman, dans la prose et dans le théâtre? Le théâtre, ce qui l'alimente, c'est quand même le roman familial. En gros.
Oui.
Qu'est-ce qui alimente romans et nouvelles et récits?
C'est un peu plus varié quand même. C'est un peu plus varié. Bon, il y a des choses vues, des choses qui sont complètement extérieures, enfin, qui viennent des expériences variées qu'a pu avoir Tchekhov au cours de sa vie, ou de choses qu'on lui a racontées, ou des fois choses vécues par ses amis, ce qui lui vaut quelques brouilles d'ailleurs. D'ailleurs, il fait pareil dans le théâtre, hein, parce que la mouette, c'est un peu la transposition des histoires de Lika Mizinova avec Potapenko, c'est-à-dire des gens très très proches de lui, quoi. Je vois pas une extrême différence, si ce n'est que sûrement pour lui, le théâtre, c'est un joujou beaucoup plus amusant que la nouvelle. Mais c'est dans la nouvelle qu'il dit ce qu'il est, quand même, qu'il dit ce qu'il est, qu'il dit ce qu'il pense, ça va plus profond, quoi.
Quand même, le roman familial, il ne cesse de le reconstituer, de le reconstruire, tout d'abord à partir des maisons qu'il trouve, et ensuite la grande maison qui s'appelle le théâtre.
Bien sûr, mais en même temps, je sais pas, le théâtre est une source de malentendus, d'abord des fois parce que ça marche pas, d'autres fois parce que la censure s'en mêle, et aussi parce qu'il il se comprend pas très bien avec les gens qui le jouent, y compris avec sa femme, Olga. Olga Knipper est venue à Paris, elle devait avoir 90 ans, là, après la Deuxième Guerre mondiale. Et elle a été interviewée, puis elle a sorti cette chose merveilleuse, elle a dit « Tchekhov ne comprenait rien à son théâtre. » En fait, Stanislavski et sa troupe n'avaient qu'une ambition, c'était de faire verser des torrents de larmes au public. Et Tchekhov considérait ses pièces comme des comédies. Bon, la cerisée, il dit que par moment c'est une farce. Alors, bon, peut-être se trompe-t-il. Il y a beaucoup d'auteurs comme ça qui croient être très drôles, et puis leurs lecteurs trouvent qu'ils sont sinistres, qu'il y a de quoi se flinguer. J'en connais d'autres.
Est-ce que ce n'est pas un jeu avec lui-même, tout son rapport avec le théâtre? Il est quand même lucide.
Oui, quand même, la réussite vient un peu tard au théâtre pour lui. Vous me direz que sa vie était tellement brève, il est mort quand même à 44 ans. Quand justement la nouvelle troupe, là, le théâtre d'art qui se monte avec Stanislavski et Nemirovitz, veut se mettre à jouer ses pièces, il a peur, il n'a pas envie qu'on reprenne la mouette, et puis bon, on la reprend, voilà que ça va être un triomphe. Vraiment, c'est une sorte de gratification pour lui, le théâtre, de récréation. Il aime beaucoup être dans les coulisses, parler avec les actrices, tout ça.
Ce n'est pas un théâtre pour vous de l'extrême économie. D'une part, le roman familial et le décor serait, et le jardin et la maison.
Bien sûr, oui, bien sûr. Bon, c'est pas.
Et le sommeil.
Oui, non, c'est, bien sûr. Alors, ce sont des gens intelligents qui disent souvent des banalités, des imbéciles qui tout à coup disent quelque chose de très profond. Et oui, tout ça au milieu d'une famille ou d'un cercle de proches. Et puis, à la fin, des fois, il y a un coup de feu qui vient rompre ce demi-silence.
Vous pensez que c'est un monde réel ou bien un monde qui est dans l'effacement, dont Tchekhov aurait trouvé le langage, un monde de la disparition, de l'éloignement, du bruit au lointain, dans le lointain?
Oui, enfin, c'est les gens, après des fois un moment de révolte, avoir pris conscience de leur détresse, de leur solitude, de ce qui n'allait pas, ou de la façon dont ils étaient maltraités, se révoltent, et puis on retombe dans le silence à la fin. Et puis, comme toujours chez Tchekhov, il y a toujours des fins ouvertes, hein, c'est pas bouclé avec une vraie chute. Prenez la fin de d'Oncle Vania, par exemple. Ben, Vania, qui a perdu, là, il se remet à faire les comptes de la propriété avec sa nièce, et il dit tant de litres d'huile, etc. Et puis la nièce dit, bon, tu es triste, pauvre Vania, etc., mais un jour nous nous reposerons. Et de mettre les choses au futur, ça suffit pour accroître le désespoir, parce qu'on sait que c'est pas vrai. Il croit pas au futur, et alors donc s'il dit les choses au futur, c'est ajouter du désespoir, dans le fond.
C'est vrai que ce monde de l'endormissement est un monde qui appartient aux propriétaires terriens, ceux qui possèdent.
Bien sûr, bon, on n'imagine pas on n'imagine pas des serfs en train de tenir de tels propos. Encore qu'il y a aussi des personnages très très secondaires qui apparaissent dans les pièces de Kafka et puis qui disent aussi des choses comme ça. Bon, par exemple, il y a un couple qui a vraiment un tout petit rôle. Je sais pas si c'est dans La Cerisée ou dans Vania maintenant. Enfin, peu importe. Et tout à coup, ils ont trois répliques pour dire, oh, peut-être qu'un jour on n'aura plus besoin de se cacher. Ils ont des amours clandestines et coupables. Peut-être qu'on pourra, si on pouvait ne plus avoir à se cacher, etc. Quelques mots comme ça, puis ça suffit pour évoquer tout un drame qui dure toute une vie. Enfin,
au fond, c'est un monde simple. Les propriétaires disparaissent ou s'effacent, et le serf doit se cacher.
Oui. Et puis, alors, il y a aussi quand même. On arrive avec la dernière pièce à Cerisée, à celui qui va s'enrichir. Enfin, la nouvelle classe sociale qui va s'enrichir et supplanter tout ce monde.
Alors, pour vous, Roger Grenier, qui est le serf? Le serf, selon Roger Grenier et selon Tchekhov.
Ben, Tchekhov a très très bien dit que son père était un fils de serf. Il dit, mon grand-père était un serf et n'importe qui avait le droit de lui taper sur la figure. Ensuite, mon grand-père tapait sur mon père tapait sur nous. Et puis, le serf, c'est quelqu'un à qui on n'a pas appris la morale, finalement, donc qui est obligé de baiser la main des popes, de faire des courbettes devant tout le monde, qui est battu, qui est lui-même cruel, il est cruel envers les animaux, il arrache les plumes des oiseaux, il torture les chats, enfin. Et Tchekhov dit que, goutte à goutte, il a expulsé de lui le sang d'esclave pour arriver à avoir un sang d'homme libre. Il a fallu qu'il se corrige tous ses défauts. Faut pas faire un saint de Tchekhov. C'est pas du tout un saint, ni même un petit saint. Il a commencé à être un vilain garnement, combatté, mais qui faisait beaucoup de bêtises. Et même dans ses débuts de journaliste, il colportait des ragots. Enfin, ça le gênait pas plus que ça. Donc, il a appris à être ce que nous pensons de lui maintenant.
Mais... est-ce qu'il a quelque chose du serf dans l'attitude de la modestie, de l'écrivain humble,
pas du tout.
Courbé, oui. Malade,
pas du
toujours
tout.
Au lit,
non, il est malade, ça,
à
oui.
Guérir son catarrhe.
Non, mais il est malade. Non, mais c'est pas André Gide qui se met des cache-nez là parce que il est frileux, tout ça. Non, il est tuberculeux gravement puisque quand même.
Est-ce qu'il n'en joue pas?
Il va mourir. Non, il n'en joue pas. Et en plus, il essaye de nier qu'il est tuberculeux, d'ailleurs, alors qu'il est médecin. Hein, il dit, non, c'est parce qu'il y a des symptômes qui n'y sont pas, donc c'est pas ça, ça doit être autre chose. Bien. Mais il a... Non, c'est pas quelqu'un de frileux, c'est quelqu'un de... Quoi qu'il arrive, il est poli, il est courtois, il a une sorte de bienveillance universelle, mais il n'en pense pas moins. Il n'en pense pas moins, et au fond de lui, il se dit, comme le docteur Astroff, je n'aime personne. Et ses amis, enfin, tous les gens qui étaient autour de lui disent on n'est pas du tout sûr qu'il nous aimait, on n'était pas du tout sûr qu'il aimait les gens. Alors il était très bon, très serviable, mais peut-être que ça cachait une exécration de l'humanité. Je le vois comme ça.
Hein. C'était À Voix Nue, Anton Tchekhov et l'expérience théâtrale, réalisation Clotilde Pivin.